t'ai même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheese 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Dimanche soir à tout le monde. On est en direct de Cheese 94.3. Mon nom est Félix Duchesne. Je suis en compagnie de mon co-animateur Raphaël Côté-Rioux. Salut Raphaël.
Salut Félix.
Et on a des invités spéciaux aujourd'hui en notre compagnie. Et on va vous faire un petit spécial Pee-Wee parce que c'est la fin aujourd'hui, évidemment, du tournoi international Pee-Wee de Québec. J'ai assisté à quelques matchs. Raphaël, tu étais supposé d'y être. Tu as dû donner ta carte d'absence.
Oui, j'ai été malade cette nuit, donc le réveil ce matin a été difficile.
Mais on va quand même vous en parler et tu as eu beaucoup de matériel à analyser cette semaine, beaucoup d'échanges, on vous en parle. Restez avec nous jusqu'à 20h, bien évidemment, sur les ondes de Cheese 94.3. On va commencer en vous disant que on est de retour après une semaine de congé et oui, on a pris un petit break durant la pause du Super Bowl. La Ligue nationale l'avait fait de même. On avait décidé de mettre des matchs en avant-midi. Il y avait des matchs jusqu'à 14h, si je ne me trompe pas. Et après, on laissait la place à la Ligue nationale de football et aussi à Rihanna, qui a fait tout un show de la mi-temps. Voilà, on est de retour cette semaine, en ce dimanche 19 février, pour, si je ne me trompe pas, c'est notre cinquième émission, quand même, à tête de hockey. Et on va commencer en vous parlant, je vous l'ai dit, des dernières parties qui ont eu lieu aujourd'hui, les finales du 63e tournoi international Pee-Wee de Québec. On n'a pas besoin de vous le mentionner, c'est du hockey, bien évidemment. Ça a lieu au centre Vidéotron. Pour la majorité des parties, il y en avait quelques-unes qui avaient lieu ailleurs, mais on va surtout vous parler de ce qui s'est passé au centre Vidéotron, bien évidemment. Je vous ai dit que c'était les finales. Donc, il y avait les finales 2B, les finales de la nouvelle catégorie, qui est une nouveauté cette année, la catégorie féminine. Par la suite, il y a eu les finales 2A, 2A Elite et 3A. Un de mes amis et un collaborateur aujourd'hui, Cyril Fournier, est avec moi aujourd'hui pour aller voir ces matchs-là. Salut Cyril.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
On était présents à partir des matchs de la finale des 2A. Donc, on a vu trois parties, c'est-à-dire 2A, 2A Elite et 3A. Je veux passer assez rondement là, sur les premiers matchs, Cyril, parce que ça s'est terminé par la marque de 5-1, c'était pas vraiment des matchs. C'était excitant quand même un peu parce qu'il y avait quelques fessayants à nommer, mais voilà, ça s'est pas mal joué pour la dernière partie. Là, c'était un peu plus serré. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé des matchs aujourd'hui.
Oui. Ben comme on dit en bon français, des blowouts. Donc
voilà,
on a assisté à deux défaites ou des victoires de 5-1, notamment du Vermont Academy qui a gagné 5-1 contre. Qui, Félix?
Contre les Stars de l'Autriche.
Oui. Ouais. Et puis, dans cette équipe-là, avec le Vermont, les Flames du Vermont, on avait un grand beef, Kuba Pavlich.
Ouais.
Donc, un grand gars qui fait une tête de plus que n'importe qui, un tir sec, complètement dominant, avec un bon coup de patin qui peut traverser la patinoire en deux enjambées.
Ouais.
Mais une question qu'on peut continuer à se demander, c'est qu'est-ce qui fait ce talent-là? C'est-tu le talent ou c'est seulement sa taille suprême sur les autres joueurs? C'est ça que je me demande, parce qu'on voit aussi des mises au jeu molles, puis un peu nonchalant des fois pour aller chercher la rondelle. Donc.
Parce que c'est ça, dans une victoire de 5 à 1, notre attention s'est surtout dirigée vers un joueur qui est sorti du lot, le numéro 44, comme tu l'as dit, Kuba Pavlik. Et justement, puis oui, c'est 14 ans à peu près. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont un peu plus vieux. Il y a une différence de taille. Il y en a qui ont eu leur poussée de croissance un peu avant. Ouais. Et c'est le cas de Pavlik. T'avais l'impression un peu qu'il manquait de
ouais,
de...
Ben, qu'il s'assoyait sur sa taille. Mm-hmm. Un petit joueur, ben, faut qu'il fasse le pas de plus. Lui, il avait un pas de moins à faire que les autres. Ça paraissait, je trouvais, notamment sur les mises au jeu.
Et du côté de l'Académie du Vermont, comme tu l'as dit, c'est eux qui ont battu l'équipe ukrainienne. C'est c'est un peu les diables de ce tournoi-là. Ouais. Et pour finalement le deuxième match, là, celui qu'on a vu des 2A élites, le Collège français de Longueuil et aussi l'Intrépide de l'Outaouais, finalement l'Intrépide a remporté 5 à 1. Comment t'as trouvé ça?
Oui, ben ça a commencé avec un premier but du Collège français assez rapidement, mais ça l'Intrépide est venu rattraper ça. Puis après ça, ils n'ont pas regardé derrière. Ouais. Là, but sur but, assez dominant. Le Collège des Français ne réussissait jamais à s'installer en zone adverse malgré des pénalités qui auraient pu leur coûter cher. Mais ça a été un chemin assez facile à partir de l'égalité qui a été créée en première période.
Est-ce qu'il y a des joueurs du côté de l'Intrépide qui te sont restés un peu en tête?
Je te dirais que ça a été un assez beau travail d'équipe au complet. Donc, il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont démarqués, ce qui est positif, je pense, dans une victoire comme ça, quand tout le monde participe.
Moi, il y a le capitaine de l'Outaouais, donc le numéro 34, qui portait le nom de Charbonneau sur son chandail. Donc, à voir Zach Charbonneau, le numéro 34, qui est à on devrait le revoir ou du moins réentendre son nom. Mais je veux surtout parler de cette dernière partie il y a deux équipes du Pee-Wee 3A qui s'affrontaient. Mm-hmm. Donc, les Red Wings de Détroit et les Knights de Czech Knights. Ouais. C'était assez particulier. Je te laisse mettre en contexte cette partie-là.
Ben oui, tu vois dans la foule une présence dominante des fans du Czech Knight qui sont pas seulement des personnes de la Tchéquie, nouveau nom, hein. Mais même des Québécois, fait qu'on se demandait justement de où ils viennent, ces gens-là. Sais-tu vraiment, est-ce que les Czech Knights possèdent une base de followers au Québec? À mon avis, avec Félix, une petite hypothèse, peut-être les familles d'accueil de ces joueurs-là. Parce que c'était vraiment des partisans, là, un bon 200 partisans avec des chandails, avec des maquillages, des Czech Knights. Donc au niveau Pee-Wee, c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais donc dans ce match-là, on a vu aussi plusieurs joueurs, pas des joueurs étoiles, mais des joueurs qui ont une petite étoile qu'on essaye de bien les regarder. Donc on avait un joueur qui a été remarqué pour son talent, donc Luka Andreshko, qui a eu un bon tournoi, qu'on pourrait dire, mais qui s'est surtout démarqué en finale. Et c'est le meilleur moment pour le faire, avec une performance de 3 points. Donc, il est rentré dans la finale avec 5 points du tournoi. Il est sorti de là-bas avec 8 points en 8 matchs, finalement. Mm-hmm. Donc, 3 points en finale, une belle explosion, un coup de patin. T'sais. Donc, un but, je sais pas si tu t'en rappelles, Félix, mais son fameux but en désavantage numérique.
C'était ce qui a cloué le cercueil, finalement, de Détroit.
Ouais. Un 3-1, là, c'était 2-1. Tu avais encore la chance, mais 3-1 après ça... Détroit a eu des petits élans de retour, mais ça a vraiment été ce bilan d'avantage numérique avec un joueur sur le dos à la Maurice Richard, un joueur sur le dos, et puis il nous garoche un plomb top corner.
Voilà, donc ça s'est terminé 4-2 pour les Knights de la Tchéquie. Voilà pour le tournoi Pee-Wee, le 63e tournoi Pee-Wee de Québec. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, Cyril.
On pourrait seulement mettre sur les autres étoiles qui ne sont pas nécessairement démarquées par leur talent, mais par leur relation avec des membres du personnel pour les Detroit Red Wings.
Ouais.
On avait deux anciens joueurs de la Ligue nationale derrière le banc, Mr. Ryan Kesler.
Ben oui.
Notre coco favori, Alex Tanguay. qui se prélassait derrière le banc, qui était même pas sur la feuille de match, mais oui. Donc, chacun a un fils dans cette équipe-là. Ouais. pour du côté de Alex Tanguay, c'est Sam Tanguay qui a un bon coup de patin. Par contre, deux pénalités assez dommages qui ont empêché le Red Wings, les Red Wings de revenir en fin de match. Des pénalités pour mise en échec illégale. Donc, il est prêt pour la nationale, mais ça s'adapte pas au Pee-wee.
Ouais.
Et on avait Riker Kessler qui a pas eu un tournoi.
Riker, okay.
Riker, R-Y-K-E-R.
Okay.
Un nom original.
Ouais.
Donc c'est ça, donc il revient au tournoi Pee-wee 25 ans après que son père ait fait la même chose en 98, et en 98 une année assez intéressante pour la production de joueurs de Ligue nationale, parce que on pouvait aussi retrouver monsieur Patrice Bergeron, donc un natif de Québec qui maintenant joue avec les Bruins de Boston.
Un natif de l'ancienne Lorette, je devrais dire.
Oui, c'est vrai, c'est pas la même ville. C'est
non,
pas
non,
la
non,
même
non,
ville.
Non.
Ils ont leur propre maire, monsieur... c'est qui, le oublié? En tout cas, Patrice Bergeron, Thomas Vanek et Rick Nash, qui, je dois le dire, jouaient pour les Toronto Marlboros.
OK.
Oh.
Donc, une équipe Pee-wee qui a un nom de cigarette. C'est à noter.
C'est en 98. Faut garder le contexte aussi. Ben, merci Cyril pour cette première collaboration inattendue à Tête
de
Hockey.
C'est ça. Ça fait du bien d'enfin pouvoir participer à une émission de radio.
Oui. Ben, voilà. C'est fait. Et, ben, au plaisir de peut-être te revoir dans l'émission. On le sait pas.
Oui.
On te dit à plus. Raphaël, c'est là que tu reviens un peu. Et, je veux lancer la perche à nos auditeurs, à nos auditrices. Ben, on est vraiment accessible autant sur les médias sociaux, sur notre compte Instagram avec le @tête au pluriel de hockey. Écrivez-nous, allez voir un peu le contenu qu'on a pour vous, parce que entre autres on va vous parler des trois étoiles un peu plus tard dans l'émission, et ben si vous voulez les voir tout de suite, elles sont présentes sur nos médias sociaux, évidemment aussi sur Instagram. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Et si vous voulez, aujourd'hui en grande primeur, on vous permet de nous appeler si vous avez des commentaires sur ce qui se passe dans le monde de la LNH. Si vous avez vu les Pee-wee aujourd'hui, vous avez quelque chose à raconter, appelez-nous. Je vous donne le numéro tout de suite, c'est le 418-656-2215, 418-656-2215, et on va vous répondre en direct. Donc si ça vous tente, eh ben appelez-nous et on vous fera un plaisir de vous répondre. Ben Raphaël, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui avec une grosse semaine. Je devrais même dire une semaine et demie, parce que ça fait justement presque deux semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Ça fait deux semaines évidemment dans les temps, mais dans les temps de la Ligue nationale, parce qu'entre autres, on a parlé des trois étoiles, de ce qui s'est passé avant. Là, cette semaine, ça a beaucoup brassé et il y a une transaction qui s'est faite dans la nuit de vendredi à samedi. Ça a choqué la planète hockey.
Ouais.
Je te laisse donner les détails.
Ben, comme on le sait, la date limite des transactions approche, le 3 mars.
Ouais.
Donc, les pions commencent à jouer, les dominos commencent à tomber. On a vu Ryan O'Reilly, le capitaine des Blues de Saint-Louis, je devrais dire en fait l'ex-capitaine des Blues de Saint-Louis maintenant, qui a remporté la Coupe et le trophée Conn Smythe en 2019 avec les Blues de Saint-Louis, qui était changé.
Conn Smythe, c'est?
Conn Smythe, c'est le trophée pour le joueur le plus utile en série.
Donc, l'année qu'ils ont gagné la Coupe.
Exactement, voilà. Exactement. Donc, Ryan O'Reilly, qui prend ses bagages, s'en va à Toronto. Toronto qui a eu une grosse soirée, là, comme tu l'as mentionné, qui a fait l'acquisition de Ryan O'Reilly, de Noel Acherry, des Blues de Saint-Louis. Ça l'a quand même coûté cher aux Leafs de Toronto. On parle de plusieurs choix, là, dont un choix de première ronde. Puis on a aussi là, ajouté Minnesota dans cet échange-là à des raisons de masse salariale.
Ouais, c'est ça, c'était une transaction à trois finalement.
Exactement.
Parce que, comme tu l'as dit, O'Reilly puis Noel Acherry, un joueur quand même physique, un genre de joueur de troisième trio à peu près.
O'Reilly aujourd'hui.
Je parle de Noel Acherry.
Oui, Acherry, c'est un gars qui va jouer dans le bottom six, là, si on veut.
Donc O'Reilly, Acherry qui prennent la direction de Toronto. Mm-hmm. Le Toronto qui doivent faire un échange, un retour évidemment, mais Minnesota qui est dans l'équation. Donc après O'Reilly puis Acherry, qu'est-ce qui se passe avec Toronto puis Minnesota?
Ben dans le fond, c'est que Ryan O'Reilly a un cap hit, si on veut, ou un salaire qui est trop élevé pour que Toronto puisse l'avoir sur leur équipe à eux seuls.
Donc, en raison du cap salarial.
En raison de la masse salariale. Mm-hmm. Donc, Minnesota rentre dans le décor. Minnesota retient 25 %. du salaire quand de même. Ryan O'Reilly en l'échange d'un choix de quatrième ronde en 2025. Donc, je veux dire, pour eux, ça leur coûte rien. Ils ont de la place sur la masse salariale. Pourquoi pas prendre ce 25%-là jusqu'à la fin de la saison pour recevoir gratuitement un choix de quatrième ronde? Donc, des fois, c'est juste pour faciliter la transaction, pour que tous les morceaux là, puissent entrer en place, si on veut. Mais O'Reilly à Toronto, c'est un excellent coup là, des Leafs. Là, c'est vraiment, comme on peut dire, ils vont all-in cette année. Une profondeur au centre qui est assez impressionnante avec Austin Matthews sur la première ligne, John Tavares sur la deuxième ligne et puis Ryan O'Reilly sur le troisième trio. C'est dur à battre comme profondeur au centre. Là.
C'est assez particulier. Puis je pense qu'ils se sont dit, c'est cette année qu'on va briser la malédiction de la première ronde en série éliminatoire. Je veux juste mettre ça au clair là, parce que c'est finalement c'est une transaction qui est en relation avec trois équipes. Il y a Toronto qui se voit finalement acquérir Ryan O'Reilly, Noel Achary, c'est comme ça qu'on le dit,
Achary.
Et aussi qui doit finalement après Toronto, ils reçoivent ça. C'est terminé, mais ils donnent des choses, bien évidemment. Ils vont donner Mikhail Abramov, ils vont donner Adam Godette, et ils vont donner un choix de première ronde cette année. Toronto sont quand même en bonne position dans la Ligue nationale, donc on s'attend à un choix dans le fin du classement, là, peut-être après le choix le 25e choix.
Ouais, exactement. On parle après 25, mais cette année, c'est un repêchage qui est excellent, donc on peut quand même s'attendre à potentiellement avoir un très bon joueur là, cette année dans ce coin-là du repêchage.
Mais ce n'est pas tout. Finalement, Toronto donne aux Blues de Saint-Louis, comme j'ai dit, Abramov, Godette, un choix de première ronde, mais aussi un choix de troisième ronde en 2023, cette année, et un choix de deuxième ronde en 2024. Donc, c'est ce que Saint-Louis acquiert. Et du côté du Wild, on va, comme tu l'as dit, recevoir un choix de quatrième ronde de Toronto et on va aussi garder une partie du salaire de O'Reilly. Donc, finalement, le Wild qui réussit à avoir une monnaie d'échange. C'est quand même un peu particulier. C'est un monde de finances. C'est un monde un peu comptable du volet, peut-être, des échanges, de se dire, on va payer un salaire pour un joueur qui jouait à Saint-Louis, qui joue maintenant à Toronto. Nous, on n'est pas impliqués dans ce joueur-là, mais on paye son salaire. Au moins, on réussit à avoir un choix de quatrième ronde en 2025. C'est un peu particulier, mais on va voir. Puis, moi, je suis allé chercher Ryan O'Reilly dans mon pool. On va voir comment il va pouvoir se démêler à Toronto et peut-être offrir la chance à cette équipe dans la ville reine, comme on dit, de peut-être passer la première ronde des séries éliminatoires. Il y a beaucoup de personnes là, en ce moment qui sont en train de se dire, si les séries commençaient aujourd'hui, qui affronterait Toronto? En ce moment, ce serait le Lightning de Tampa Bay. Une équipe qui a fait la finale dans les trois dernières années, c'est pas facile à affronter en première ronde, on va se dire
en
ça.
En effet.
On veut parler de ce qui va s'en venir, possiblement, on veut faire des prédictions, mais on va dire ce qui s'est passé pour de vrai, parce qu'il y a eu des signatures cette semaine, je te laisse y aller.
Oui, premièrement, on se tourne vers Buffalo, où Dylan Cousins signe une extension avec les Sables. On parle de 49,7 millions sur 7 années, donc on parle de 7,1 millions par année.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais Dylan Cousins, c'est un jeune joueur qui a une bonne saison. On s'attend à ce que ce talent-là et cette progression-là soit exponentielle. On voit de plus en plus ça souvent avec des jeunes joueurs qui sont agents libres avec restrictions. On les signe sur le long terme, pas nécessairement pour qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, mais plus sur qu'est-ce qu'on prévoit qu'ils vont faire plus tard.
Ben, on regarde Suzuki qui a eu un gros contrat.
Exactement.
On regarde Tim Stoos, là, qui a eu un gros contrat.
Jack Hughes, la liste continue. Plus souvent qu'autrement, ces contrats-là, ça paye. Ça reste à voir. Moi, je suis confiant en Dylan Cousins. On se rappelle qu'il était le septième choix dans le repêchage là, en 2019. A présentement 22 ans. A 48 points cette saison en 53 matchs pour les Sabres de Buffalo.
C'est pas mal.
Non, c'est très bon pour un jeune joueur de 22
Content
ans.
Content qu'à Buffalo, il y en a qui explosent en ce moment. Là, Alex Stock, Tage Thompson.
Ouais, Darlene,
ça va très bien. On a hâte de voir. Vont-ils faire les séries cette année?
Ça va être difficile. Ça va être difficile. J'aimerais ça parce que c'est une jeune équipe, un peu comme les Devils qui commence à percer. Mais peut-être plus l'année prochaine pour les Sables.
On va continuer de suivre ça, bien évidemment. Les prochaines semaines vont être le fun.
En effet.
Il y a des échanges qui vont se faire, des gros joueurs à échanger, entre autres Patrick Kane, on vous en parle un peu plus tard dans l'émission. Sinon, on s'en va sur la côte ouest, on s'en va à Los Angeles, c'est le fun, avec les Kings qui ont signé un joueur, moi je m'attendais pas à ce qu'il signe pour aussi longtemps, Mikey Anderson. Parle-moi un peu de c'est qui, j'ai pas l'impression qu'il est... Tu sais, moi, les Kings, je les vois pas souvent, bien évidemment. Mm-hmm. On les voit quand ils viennent à Montréal ou on les voit quand ils font des prouesses. Là, Drew Doughty, pour moi, c'est un joueur indémodable des Kings. Mais Mikey Anderson, il représentait quoi à Los Angeles?
Oui, Mikey Anderson, c'est un défenseur plutôt reconnu pour son jeu défensif. Il est excellent défensivement. C'est un défenseur qui est plutôt jeune. Là, on parle de 23 ans. A signé une extension de contrat de 8 ans d'une valeur de 33 millions avec les Kings. Donc, on parle de 4,125 millions par année.
C'est la moyenne.
C'est la moyenne. C'est un excellent défenseur défensif. C'est un défenseur top 4 assurément. Peut-être plus sur le deuxième duo défensif, si on veut, mais c'est quand même un défenseur qui est très utile. C'est le frère, d'ailleurs, d'un certain Joey Anderson, qui était le capitaine pour l'équipe américaine junior au tournoi mondial junior il y a quelques années.
Okay.
Donc, c'est un joueur qu'on connaissait. Il a joué lui aussi là, au tournoi mondial junior. Donc, je trouve que c'est un bon contrat pour les Kings. C'est un excellent joueur sur les avantages numériques. C'est vraiment un pilier, si on veut, là, de la défense des Kings. Donc, on se le garde pour 8 ans à un salaire qui est pas trop élevé. On s'attend à ce que la masse salariale monte aussi dans les prochaines années. Donc, je trouve que ça a une bonne value, là, une bonne valeur pour les Kings.
Je me demande qu'est-ce qui se passe là, du côté des Kings. On est allé chercher Kevin Fiala. Mm-hmm. Cette année, on a Jonathan Quick qui a eu un bon début de saison. Là, c'est plus Copley qui a pris la charge du filet. On a une défensive. Je parlais de Drew Doughty. Il s'en vient vers la fin de sa carrière. Mm-hmm. Est-ce qu'une reconstruction est à venir? C'est une équipe de milieu de peloton, un peu, là, les Kings, qui sont toujours... Dans les dernières années, des fois, ça a mal été. Des fois, ça va très bien. Nze Kopitar qui va... plus ou moins bien, puis on voulait en parler, mais je pense qu'on va manquer de temps. Là, Dustin Brown qui s'est fait retirer son chandail, du moins il y a eu une reconnaissance. Dis-moi rapidement avant qu'on aille en musique.
Dustin Brown qui a été le capitaine des Kings pendant longtemps, a gagné 2 coupes en tant que capitaine avec eux en 2012 et 2014, s'est fait retirer son chandail, puis on va aussi avoir une statue là, en avant de l'arène des Kings. Donc c'est pas rien. Les Kings, là, comme tu l'as mentionné, sont deuxième présentement dans la division Pacifique. Ils ont un mélange de jeunes joueurs puis de joueurs qui commencent à vieillir. Nze Kopitar a quand même 50 points en 57 matchs cette année. Drew Doughty, lui, est à 37 en 56. Pour un défenseur, ça a beaucoup de bon sens. Tu sais, Drew Doughty, c'est un joueur qui s'est fait repêcher là, en 2008, deuxième au total. Donc, mm-hmm. En effet, quand tu as 18 ans en 2008, tu commences à te faire vieux. Là. Mais il performe encore à 33 ans, donc à suivre pour les Kings, mais ils sont en bonne position cette année.
Eh bien, voilà, il est 19h21 maintenant. On va y aller pour une pause musicale. On vous a parlé du tournoi Pee-wee de Québec qui s'est terminé aujourd'hui. Il y a eu les finales et ça a été toute qu'une aventure, entre autres avec l'équipe ukrainienne qui était nouveauté cette année, aussi la nouvelle classe d'équipe féminine. On vous a parlé de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale aussi, Ryan O'Reilly qui a pris la direction de Toronto, des signatures aussi. Et on va vous parler de ce qui s'en vient possiblement. On est le 19 février dans, pas vendredi, qui s'en vient l'autre d'après, le 3 mars. On va avoir la date limite des transactions. Après ça, ce sera le chemin des séries. Donc, d'ici la date limite des transactions, qu'est-ce qui va se passer? On vous le dit tout de suite après. Broken Clocks de CZA à Tête d'Hockey sur les ondes de Chiz. 94.3.
Running back to the strip club, I'm never going back, never going back. No, you can't make me, never.
got pieces and pages, talking a lot. Sorry, I'm faded. Think I forgot. You love me. Been about 2 days, no break. Been about 3 years since I dated you. Why are you still talking about me like we together? I moved on for the better, you moved on to whoever. I was down for whatever and then some. You gon' make me late to work again. Ooh, better day than yesterday. Ooh, I just take it day by day.
Retour sur les ondes de Chiz 94.3 et vous êtes à l'émission Tête de hockey. Et oui, en ce dimanche 19 février, dernière journée du tournoi puis oui, hockey de Québec. Un de mes collègues, Cyril Fournier, était avec moi en direct du Centre Vidéotron.
Oui, puis c'était toute qu'une expérience. Je voulais juste dire une félicitation à toute l'organisation du tournoi international de hockey puis oui au Québec.
Ryan voilà. Voilà. Et on a eu des anciens, puis oui, qui étaient là, Ryan Kessler, Alex Tanguy était présent. On a eu des futurs joueurs de la Ligue nationale. On verra bien. On vous a parlé, entre autres, de Kuba Pavlik, le numéro 44 de l'équipe du Vermont, à voir peut-être dans une dizaine d'années dans la Ligue nationale. On sait pas. Je vous fais un rappel juste avant qu'on continue notre émission qu'on est en direct sur les ondes de 94.3 Chiz. On veut vous entendre. Donc, appelez-nous au 418-656-2215. On va vous parler en direct sur les ondes directement FM de Chiz. On va en parler directement de la Ligue nationale, Raphaël, parce que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler. La date limite s'en vient. Mm-hmm. Il y a des équipes qui veulent bouger. Mm-hmm. Là, on va aussi parler de ce qu'on appelle le Thank-a-ton, donc ce qui est prévoir sa stratégie en fonction de la position que tu vas avoir à la fin de l'année et du choix du repêchage que tu auras. Il y a une équipe qui est quand même bien positionnée, c'est-à-dire bien positionnée à la fin du classement, qui va très mal cette année. Je parle des Blackhawks de Chicago. Au début de l'année, c'était un peu plus clair là, qu'on allait, entre guillemets, tanker cette année que le Canadien. Le Canadien aussi, c'est un peu dit sur tous les toits, sur toutes les tribunes. Mais là, avec Chicago, qui ont sorti plein de joueurs, qui ont pas signé des agents libres, leur première ligne, on avait Anastasio, on avait Patrick King qui était resté là, mais sinon on avait Max Domi. On a fait beaucoup de moves.
Oui.
Là, date limite des transactions, on se dit on va peut-être avoir Connor Bedard, on va essayer d'avoir des bons choix au repêchage, on veut vendre.
Oui, absolument.
Patrick Kane, Jonathan Toews, on se dit ils vont sûrement bouger. Mais il y a Patrick Kane là que entre autres avec la transaction de Tarasenko, il est sorti des médias en disant il a pas dit ça comme ça, mais je suis un peu jaloux. Tu sais, je m'attends.
Un peu déçu.
Parce que Tarasenko, Kane, bon, c'est pas le même joueur, mais va peut-être aider une équipe de la même façon, c'est-à-dire absolument, en marquant des buts, en ayant un tir assez, assez précis. Et ben là, la chance est partie pour Kane. Est-ce qu'il va changer d'adresse d'ici la date limite de transaction?
Si tu m'avais demandé la question il y a deux semaines, j'aurais dit oui à 100%. On dirait que...
À New York?
À New York ou à Toronto, parce okay, que Toronto aussi était dans les plans. La réalité, c'est que Patrick Kane a un peu un contrôle sur où il veut aller. C'est comme ça, mais... probablement que le prix était trop haut. Patrick Kane, c'est un joueur qui est blessé aussi beaucoup, qui s'est blessé dans les dernières années, qui a besoin d'une chirurgie. On sait pas trop comment qui est côté santé. Les Leafs et les Rangers ont décidé de trouver d'autres options. Les Leafs, on en a parlé tout à l'heure, Ryan O'Reilly. Les Rangers, on l'a partagé sur notre page, là, Vladimir Tarasenko, qui part lui aussi de Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, il se débarrasse eux aussi là, de pièces quand même assez intéressantes. Mais Patrick Kane... Maintenant, je suis plus tant certain. C'est un joueur qui a un gros salaire. Ça va nécessiter une rétention de salaire à quelque part. C'est une bonne question, Patrick Kane. T'sais, c'est un des meilleurs joueurs américains de tous les temps. C'est un joueur qui est capable d'être dominant. Il commence à se faire vieux. La dernière année de son contrat, à suivre. Je suis pas sûr à 100%.
Ben, moi, j'essaie de voir, là, en ce moment, les équipes qui sont sur le bord ou qui font déjà les séries, bon, Boston. Je pense pas qu'ils ont la marge d'aller chercher Patrick Kane. La Caroline, on va en parler plus tard parce qu'ils sont dans la course pour Timo Meier. Kane, hors du portrait. New Jersey Devils non plus. Toronto, comme tu l'as dit, sont allés chercher O'Reilly. Les Rangers sont allés chercher Tarasenko. Tampa Bay, plus dans une phase de garder les joueurs, peut-être dans une reconstruction dans les prochaines années. Pittsburgh?
Ça m'étonnerait. Pittsburgh, c'est une équipe qui se fait de plus en plus vieille. C'est une équipe qui est sur la limite, si on veut, là, des séries. Je les vois pas ajouter quelqu'un comme Patrick Kane, donner des jeunes, des assets, si on veut, pour aller chercher Patrick Kane. Je le vois pas vraiment. Puis je suis même pas convaincu qu'ils ont l'espace pour le faire.
Mais on s'en va du côté de l'Ouest. D'abord, Vegas. Pas de place.
Je pense pas. Non, Vegas, je pense pas.
Dallas.
Ça m'étonnerait aussi. Tu sais, c'est une question de masse salariale. Là. Patrick Kane, c'est un joueur qui commande un extrêmement gros salaire. C'est pas un joueur qui performe autant qu'il performait avant.
Il est dans les 8 à 9 millions. Là. C'est énorme. Là.
Patrick Kane, on parle de 10,5 millions.
C'est beaucoup de place.
Donc, c'est beaucoup de place sur une masse salariale. Ouais. Puis, c'est un joueur qui pas brisé côté talent, mais physiquement, il y a des problèmes. Donc, honnêtement,
je regarde le classement, je trouve aucune place. Ben, on parle de Seattle, on parle de Winnipeg, on parle d'Edmonton, on parle de Colorado. Il n'y a pas de place là, où les équipes ont ce genre de joueurs de concession qui pourraient rentrer dans l'alignement.
En effet.
C'est un peu plate. Puis je pense que c'est pour ça, peut-être, que Kane est sorti dans les médias quand il a vu que New York, les Rangers, bien évidemment, ont décidé d'aller chercher Tarasenko. C'est particulier.
Ouais, donc, tu sais, le plan des Blackhawks de Chicago, qui au début de la saison pensait se débarrasser de Tazey Kane, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Là. Justement, aujourd'hui, Frank Cervelli, un journaliste bien connu dans le monde du hockey, a annoncé que les Chicago Blackhawks, les Blackhawks de Chicago n'échangeraient pas Jonathan Toews cette année. Donc, ça commence à être compliqué pour les Blackhawks, que, comme tu l'as mentionné, veulent se débarrasser du stock pour être dans une meilleure position pour bien repêcher cette année pour le prix qui est Connor Bedard. Donc, on garde l'œil là-dessus, mais il y en a un autre qui est un peu plus intéressant pour les équipes. Là.
Oui. Puis je laisse ce 3 points de suspension pour après la pause. d'ici là, je vous dis que vous écoutez Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3, qu'on parle de hockey tous les dimanches de 19h à 20h, qu'on vous parle un peu de ce qui va s'en venir dans les prochaines saisons à venir. On vous donne plus de détails après la pause sur les ondes de Chiz 94.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeons, monte ou black, hey yo! Appelle-moi la Lionne, c'est chaud!
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3, dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4, finaliser votre testament. Et 5, donner vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
De retour à Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis en compagnie de mon co-animateur Raphaël Côté-Rioux.
Yes.
Salut Raphaël. Mon nom est Félix Duchesne. On est encore ensemble jusqu'à 20h et on vous parle de hockey, de ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines. On a la date limite des transactions le 3 mars qu'on attend avec impatience parce qu'il y a plusieurs joueurs qui vont changer d'adresse et là, il y a un gros poisson que oui. Plusieurs directeurs généraux veulent aller pêcher. Il s'appelle Timo Meier.
Oui.
Il a fait un match de 5 buts la saison dernière. Je veux savoir où tu vois Timo Meier avant la date limite des transactions.
Écoute, il y a deux équipes là, qui sont dans la course là, en ce moment. On parle des Devils du New Jersey et des Hurricanes de la Caroline. Deux grosses équipes qui sont en excellente position présentement pour les séries. C'est vraiment là, les deux équipes qui sont mis de l'avant. Apparemment que les Hurricanes, eux, n'auraient pas besoin d'avoir une extension en place avec Timo Meier. Timo Meier est un agent libre cet été, ouais. Un agent libre avec compensation. Donc, les Hurricanes, apparemment, ne voudraient pas nécessairement avoir Timo Meier avec une extension. Les Devils, oui. Donc, ça complique les choses un petit peu. On pourrait prétendre là, qu'une équipe qui veut un Timo Meier signé serait prêt à donner plus aux Hurricanes.
Ouais.
Ça vaut peut-être plus la peine pour eux. Mais ça reste à suivre. C'est vraiment les deux gros là, qu'on peut voir. Là.
Mais ça, c'est un peu à ton avantage, finalement, de,
ben
voir,
oui.
De voir que dans la façon de faire des Hurricanes à Caroline, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, Timo Meier prendra pas la direction de la Caroline.
Ben, ça se peut qu'il prenne la direction de la Caroline. Timo Meier, c'est un excellent joueur. Mm-hmm. Les Hurricanes, ça fait quelques années qu'ils sont placés pour être des contenders pour la finale de la Coupe Stanley.
Ouais.
Ça l'a pas nécessairement été de cette façon-là dans les dernières années.
C'est supposé éclore éventuellement.
Exactement. Mais je pense que si Timo Meier va avec les Hurricanes, ça va vraiment être un rental, si on veut. Ça va être un joueur qui va venir pour la fin de la saison, ensuite de ça va signer avec une autre équipe là, ou va être échangé ou quelque chose dans ce genre-là. Avec les Devils, je le vois vraiment plus comme un joueur qui va être là pour les 7-8 prochaines années, là, puisqu'il va venir avec une extension.
Avec la reconstruction que tu nous as racontée dans les dernières semaines, on le sait à quel point les Devils sont en business pour finalement arriver en finale plusieurs fois, peut-être dans le même modèle que le Lightning de Tampa Bay, on verra bien.
Mm-hmm.
On veut parler aussi des trois étoiles de la semaine, parce que c'est une habitude qu'on a pris. On est un peu décalé finalement aux trois étoiles de la semaine de la LNH, mais on va en parler. C'est celle du 12 au 18 février.
Exactement.
Donc, nous, étant donné que nos émissions sont les dimanches, on vous donne les étoiles de ce qui s'est passé entre les émissions pour après ça pouvoir couvrir tout le temps ce qui s'est passé. Je te laisse les nommer, puis après ça, on a reçu un appel, donc on va pouvoir finalement échanger avec un auditeur.
Super.
Mais je te laisse le temps de parler des trois étoiles.
Oui, super. Donc, comme Félix l'a mentionné, là, nos étoiles de la semaine, c'est tout le temps les étoiles du dimanche au samedi. Donc, on part avec la troisième étoile. On a Jordan Eberle, l'attaquant du Kraken de Seattle, qui a terminé sa semaine avec 3 buts, 4 passes, donc 7 points en 4 matchs pour Jordan Eberle cette semaine. Jordan Eberle, on le sait bien, qui est une des super vedettes de l'équipe Canada Junior.
Oui, c'est ça.
Qui a eu des buts assez iconiques, si on veut, là, des buts mémorables là, pour l'équipe canadienne junior.
On pensait qu'il allait tout changer à Edmonton.
Ouais.
Il a changé d'adresse plusieurs fois après ça. Là,
il se retrouve avec les Islanders, a joué avec le Kraken.
Ouais. Puis là, avec le Kraken, ça a l'air d'un peu mieux aller cette année.
Oui.
Un club qui va mal, on a parlé beaucoup dans les dernières émissions.
Oui.
C'est les Canucks de Vancouver, mais il y a un joueur qui se démarque.
Oui, on parle de Elias Pettersson, le quatrième choix au total en 2017, a terminé sa semaine avec 2 buts et 5 passes pour 7 points en 3 matchs, dont un match là, hier assez extraordinaire de 5 points contre les Flyers de Philadelphie à Vancouver. Donc une excellente semaine là, pour le jeune Suédois des Canucks.
Et voilà, et on y va avec la première étoile de la semaine, celui qui a su se démarquer le mieux.
Oui, on parle d'un certain joueur qui joue pour les Red Wings de Détroit,
ouais.
Qui, assez curieusement, puis pour faire un petit lien avec le début de l'émission, a joué au tournoi Pee-Wee de Québec
ah ben.
En 2009 avec Bell Tire, qui est assez ironiquement une équipe de Pee-Wee 3A mm-hmm. qui vient de Détroit.
Ah ben.
Le joueur, notre première étoile de la semaine, est Dylan Larkin, le joueur de centre des Red Wings de Détroit. Donc, joue au tournoi Pee-Wee avec Détroit,
ouais.
Joue dans la Ligue nationale avec Détroit. C'est quand même une belle coïncidence. On parle de 4 buts, 4 assists là, pour 8 points en 4 matchs pour Dylan Larkin, qui connaît une très bonne saison.
Oui, mais à Détroit, c'est quand même particulier là, cette saison. On avait ouais. fait plusieurs acquisitions. On pensait que ça allait débloquer. Ça débloque.
Ça va peut-être être l'année prochaine, mais Dylan Larkin, c'est vraiment un gros morceau du casse-tête. Là. Lui qui va devenir agent libre cet été, sans compensation, donc il est libre de signer oh. avec qui il veut. Mais il y a beaucoup de rumeurs là, d'une extension de contrat avec les Wings.
Ah,
les
ben.
Wings iraient peut-être plus vers le 8 millions par année. Dylan Larkin lui penche un petit peu plus vers le 9 millions par année, donc peut-être une entente entre les deux, mais à suivre là, pour le joueur américain, mais Dylan Larkin avec une excellente semaine.
Comme tu l'as dit, à suivre. On passe maintenant à un segment tout nouveau dans Tête de hockey. On va parler à l'auditeur qui nous a appelé et on va faire référence au début de l'émission. On a parlé du tournoi Pee-Wee de Québec. J'inclus donc notre collaborateur Cyril pour parler avec notre auditeur. Donc, oui, allô, bienvenue à Tête de hockey.
Oui, bonjour Félix.
Oui, on parle à?
Michel.
Oui, bonjour Michel. Et qu'est-ce que tu voulais nous dire aujourd'hui par rapport au tournoi Pee-Wee?
Ah, je suis allé voir ces beaux jeunes-là jouer au hockey au Centre Vidéotron. Là, j'ai vu les trois matchs à partir de midi. Là, je ne sais pas si tu étais sur place toi-même. Là.
Oui, je suis présent. Puis Cyril aussi, oui, notre collaborateur
ah, oui.
spécial d'aujourd'hui.
Bonjour, monsieur.
Oui, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était trois bons matchs. Surtout le dernier, là, parce qu'il a été plus serré, disons. Là, mais vraiment, le premier avec l'équipe du Vermont, là, qui avait battu, puis on comprend pourquoi, là, la fameuse équipe de l'Ukraine, là, quand même assez difficilement, ils ont gagné à 5-1, mais vraiment, il y a, dans cette équipe-là, là, je sais pas si t'es pas d'accord avec moi, là, Félix, mais il y avait comme tout un joueur, là, un grand, quasiment 6 pieds déjà à la presse, hein, là, assez impressionnant, comment il s'appelle, Kuba Pavlik.
Eh oui, ça nous est resté tout le monde en tête, parce que il y a vraiment, il y a la partie, qu'est-ce que t'en as pensé, Cyril?
Ben oui, on s'en rappelle des enjambées qui traversent la patinoire, puis un tir sec là, qui détonne beaucoup avec le reste des tirs Pee-Wee, où on les voit souvent crinquer leurs tirs, puis tout, mais là, lui, c'est. Il décoche.
Imprévisible.
Ouais.
Voilà. Et Michel, pour cette édition, cette 63e édition Pee-Wee du tournoi hockey de Québec, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti des dernières années? Est-ce qu'il y a un joueur qui est, à part celui qu'on parle, le numéro 44 du oui. Vermont, est-ce qu'il y a un joueur ou quelque chose qui est sorti de cette année?
Ben, en tout cas, c'est sûr que le passage de l'équipe de l'Ukraine là est un grand événement qui a attiré beaucoup l'attention.
Mm-hmm.
Puis c'était pas juste parce qu'il venait de l'Ukraine, un pays en guerre, comme on le sait, là, mais c'est aussi parce qu'il y avait une très bonne équipe devant sur la glace. Là, hein. Ils sont pas arrivés ici en touristes, là, ils sont vraiment arrivés avec toute une équipe de hockey, là, ça un peu comme aujourd'hui, on voyait la rondelle là, qui circulait là, de très bien là, entre les joueurs. Vraiment, là, ils m'ont vraiment impressionné, ces jeunes-là, là, malgré leur le contexte dans lequel ils s'amenaient ici. Là, on voit qu'il y avait vraiment la tête au hockey, là, comme le titre de ton émission, dans le fond.
C'est un beau lien avec tête de hockey, bien évidemment. Justement, je pense que le 63e tournoi Pee-Wee Hockey de Québec est clôturé. On a vu ce qu'on avait à voir, comme tu l'as dit, Michel. Finalement, les Ukrainiens qui sont venus cette année, ça a été assez marquant. L'équipe du Vermont qui les a battus, on les a vus aujourd'hui, en cette journée de finale. Et on a eu tout un match pour le 3A, finalement. Donc, voilà, c'est clôturé pour le tournoi Pee-Wee de Québec. Michel, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on se laisse pour la pause publicitaire?
Non, ça va aller. Je te remercie d'avoir pris mon appel. J'aime ça votre émission, alors je vais dire.
Ben merci beaucoup et au plaisir. Merci d'écouter Tête de Hockey. Nous, on va y aller en musique avec la chanson No Way de 20-some parce que c'est la réaction que j'ai eue en ayant un appel aujourd'hui. Je me suis dit, no way, oh my god, un appel à tête de hockey, on y va. Et au retour, on vous parle de ce qui s'en vient dans la Ligue nationale, plein d'affaires.
Yeah. Échappé belle tellement de fois avant de le catch. Il était trop tôt. Look good, felt wrong, don't go. Faire le con par chez nous, c'est un no-no. Mon homeboy est tendance, sa petite contre les dodos. Mon temps c'est de l'argent, vaut mieux tard que no show. I'm blessed. J'aurais pu finir comme mon best. On me l'avait dit, wash tes fesses. S'en est fallu peu, non, ne lèche, saint sauf. Maintenant j'arrive à sourire. J'avais mes raisons, mais j'arrive plus à m'en souvenir. J'ai changé d'eau. Aïe, ok, faudrait ben en laisser. Blessings over blessings, oh my god, all that shit got me thinking. No way, j'peux pas croire ce qui m'arrive. Eux non plus sont saisis, j'les laisse dépenser leur salive. Screaming no way, pourquoi lui, pourquoi pas. Tant pis si tu m'crois pas, j'm'en viens collecter mon guala, homie gone. No way, no way, no way, no way, no way. Are you kidding, no we did it. C'est vrai, j'ai jamais feel comme si j'étais le parfait prototype. Fuck it, I'ma get it, on va déjouer les pronostics. Watch me go, yeah. Hey, meanwhile, dans Greenfield. Missed out, ce paysage trop focused on being real. Yeah, what's being real, huh? J'me demandais, well, à quoi j'pensais tout ce temps-là. J'étais à côté, ou peut-être ça juste à donner que j'avais zéro fucks à donner. Now, à force de tout recevoir, j'sais même plus ce que j'pourrais demander. Mon record deal est signé, mon album est en chantier. Baby mama looking good, pis ma petite fille est en santé, ok. Somehow, j'ai un big smile on my face. Feels now like her single things going my way, yeah. J'en ai passé des temps morts, j'vois le premier surpris. Pas le temps pour les remords, c'est le dernier de mes soucis. J'me suis jamais si bien senti. Maintenant j'arrive à sourire. J'avais mes raisons, mais j'arrive plus à m'en souvenir. J'ai changé d'eau, aïe. Ok, faudrait ben en laisser. Blessings over blessings, oh my god, all that shit got me thinking. No way, j'peux pas croire ce qui m'arrive. Eux non plus sont saisis, j'les laisse dépenser leur salive. Screaming no way. Lui pourquoi pas. Tant pis si tu m'crois pas. J'm'en viens collecter mon guala, homie gone. No way, no way, no way, no way, no way. Are you kidding, no we didn't. C'est vrai j'ai jamais feel comme si j'étais le parfait prototype. Fuck it, I'ma get it. On va déjouer les pronostics. Watch me go. I'm thinking no way. J'peux pas croire ce qui m'arrive. Eux non plus sont saisis, je les laisse dépenser leur salive. Screaming no way. Pourquoi lui, pourquoi pas. Tant pis si tu me crois pas, je m'en viens collecter mon guala, homie gone. No way, no way, no way, no way, no way. Are you kidding, no we didn't. C'est vrai, j'ai jamais feel comme si j'étais le parfait prototype. Fuck it, I'ma get it, on va déjouer les pronostics. Watch me go.
De retour à tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Beaucoup de choses qui se passent en cette émission du dimanche 19 février. On vous a parlé bien évidemment du tournoi Pee-Wee de Québec qui était à sa 63e édition. On a eu d'ailleurs l'appel d'un auditeur, Michel. On le remercie et on vous invite à nous appeler encore une fois au 418-656-2215. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des choses à dire sur le monde du hockey en général. On va être là pour échanger avec vous. Et Raphaël, comme à chaque émission, on aime ça, nous, mettre les choses en contexte.
Oui.
On aime ça un peu essayer de prédire ce qui va se passer, mais aussi regarder les joueurs qui vont construire des équipes de demain. C'est
absolument.
Ça, finalement. Et je trouve que le lien est quand même assez peut-être un peu tiré par les cheveux, mais est là avec le tournoi Pee-Wee. Mais on va aller avec des joueurs un peu plus âgés, donc
oui.
Des joueurs qui sont plus proches de la Ligue nationale, bien évidemment. Des joueurs qui ont été repêchés par des équipes de la Ligue nationale. Il y a des un top 50 et aussi des équipes qui se sont fait classer en fonction des de leur recrue, ouais. De leur prospect, comme ouais. On dit en anglais. Je te laisse continuer.
Oui, absolument. On parle de Scott Wheeler. Scott Wheeler, qui est un journaliste là, très réputé dans le monde du hockey, qui travaille au média The Athletic, ouais. Qu'on connaît assez bien, là, un média là, de subscription, si on veut. Là,
faut payer pour faut avoir payer, accès à ce média-là, et c'est souvent justement du journalisme un peu plus de profondeur dans les papiers qui sortent.
Donc Scott Wheeler, qui est un expert là, en espoir dans la Ligue nationale de hockey, ouais. Qui à chaque année sort son top 32 des équipes en termes de leurs espoirs, justement. Ouais. Donc la première équipe est l'équipe qui a les meilleurs espoirs, qui est la mieux... Là,
qui devrait le mieux aller dans les prochaines
exactement,
années.
Exactement, exactement. Mais on a aussi un ranking, si on veut, des 50 meilleurs espoirs dans la Ligue nationale. Donc, il s'occupe des deux, il sort les deux de façon très similaire. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça, puis on voulait vous en parler aujourd'hui.
Et là, c'est ça, moi, la réaction que j'ai eue en voyant autant le top des équipes selon leurs recrues et le top des 50 meilleures recrues mm-hmm. au niveau individuel. Souvent, le top 50 individuel va être un miroir
absolument.
De ce que les équipes vont développer dans les prochaines années.
Oui, absolument. Habituellement, plus tu as d'espoirs qui sont classés dans le top 50, plus ta position dans le classement des équipes avec les meilleurs espoirs va
mais
être bonne.
Mais pas que. Puis c'est là que ton analyse vient finalement rendre toute sa pertinence à cette comparaison entre ces deux tops. Je te laisse
ouais,
parler.
Oui, c'est important de noter là, que Wheeler a quelques critères pour ses classements. En ce qui a trait là, aux 50 espoirs individuels, le joueur doit avoir en dessous de 23 ans, ne doit pas être un joueur de la Ligue nationale à temps plein et doit avoir un contrat de la Ligue nationale ou être sélectionné au repêchage. Donc
un contrat, ça veut pas nécessairement dire de jouer.
Non, c'est d'être signé à un contrat d'entrée. Il y a beaucoup de joueurs qui sont signés à des contrats d'entrée, mais qui sont pas encore au niveau professionnel. Mais moi, la règle sur laquelle je veux beaucoup m'appuyer, là, c'est celle-là des 23 ans et moins, et ne pas être un joueur de la Ligue nationale à temps plein. D'ailleurs, ça l'explique le rang des Canadiens de Montréal dans ce classement-là. Montréal, qui est placé présentement au 11e rang
sur
32 des équipes avec les meilleurs espoirs. Mais la raison derrière ça, Montréal serait beaucoup plus bas dans le classement, ou plus haut, je devrais dire, vers le numéro 1.
Voilà.
Mais on parle de Slafkovský, qui est maintenant, qui est considéré comme un joueur à temps plein. On parle de Caden Gooley, qui est considéré comme un joueur à temps plein. Donc, juste avec ces deux joueurs-là, Montréal serait probablement dans le top 5.
C'est ça qui m'a fait sourciller, là, en voyant Montréal au niveau 11. Mais je sais que tu voulais... Ben, on peut peut-être parler des espoirs de Montréal avant d'enchaîner vers les 5 meilleures équipes.
Oui, absolument.
De ceux qui vont avoir, finalement, le meilleur rayonnement dans les ouais. prochaines années. Mais Montréal, finalement, Scott Wheeler, dont tu parles, vers qui il s'est tourné pour dire ça, c'est les prochaines recrues de Montréal qui devraient faire rayonner la lumière de but assez fréquemment.
Ben, comme je l'ai mentionné, Montréal classé 11e dans le classement des équipes avec les meilleurs espoirs. Les trois meilleurs espoirs de Montréal, selon Scott Wheeler, sont Lane Hudson, Lane Hudson.
Lane Hudson, là, il y a du monde qui le compare à Cale Makar.
Ouais, on peut se calmer un petit peu là-dessus, mais il connaît une excellente saison là, avec l'Université du Boston dans la NCAA aux États-Unis. Ouais. Le deuxième meilleur espoir des Canadiens, on parle de Sean Farrell, et le troisième, on parle de Owen Beck. Je trouvais pertinent aussi de mentionner là, les rangs où ces joueurs-là se plaçaient ouais. Dans le classement des espoirs individuels de Scott Wheeler. Mm-hmm. Donc, Lane Hudson se retrouve au 17e rang, donc le 17e meilleur espoir dans le monde du hockey. Sean Farrell, 41e, et Owen Beck, 50e sur 50 dans le classement.
Ils font quand même les trois, le top 50. C'est quand même
ouais,
pas
ouais,
mal.
Oui, absolument, absolument. Considérant, comme j'ai dit au début, que Slafkovský n'est pas compté là-dedans, Gooley n'est ouais. pas compté là-dedans, ça a du bon sens, tant qu'à moi.
Donc, on veut veut parler des meilleures équipes dans les prochaines années, ceux qui pensent peut-être plus au côté reconstruction.
Ouais, tu sais,
veut dire de se vider des meilleurs joueurs de son équipe.
C'est ça. La réalité, c'est que des espoirs, c'est des espoirs. Il n'y a rien de garanti. Il y en a qui sont plus garantis que d'autres, mais c'est une bonne projection pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on a décidé de vous présenter le top 5
ouais.
Des équipes qui sont, le top 5 des équipes avec le meilleur bassin d'espoir, selon Scott Wheeler, parce que c'est vraiment là, le futur, là, si on veut, là, de la Ligue nationale.
Et ça commence avec une équipe où on a parlé tantôt avec
exactement.
Patrick Kane, une
oui.
équipe qui essaye de changer. Changer le vent de bord pour reconstruire. Sur qui vont-ils baser leur futur?
Oui, le meilleur espoir des Blackhawks de Chicago, là, sans l'ombre d'un doute, c'est Kevin Korchinski.
Je pas.
Non, défenseur qui a été repêché 7e au total en 2022, qui okay. joue présentement pour Seattle dans la WHL, donc la Ligue junior là, de l'Ouest du Canada.
Ouais.
Kevin Korchinski, c'est quelqu'un que j'avais très près de Caden Gooley dans okay. mon classement, okay. Dont on a parlé là, il y a quelques semaines. Les meilleurs défenseurs, les meilleurs espoirs défenseurs. C'est un défenseur qui est excellent offensivement et en transition. Il y a du travail à faire défensivement, mais c'est vraiment un bon joueur. Là. Si on passe au deuxième meilleur espoir des Blackhawks, on parle de Lucas Reichel,
ouais.
L'attaquant.
Lui, il est bon.
Oui, très excellent, qui a été repêché 17e au total en 2020, qui joue présentement là, pour le club école des Blackhawks dans la Ligue américaine, qui a joué quelques matchs là, cette saison dans la Ligue nationale,
ouais.
là, 3 points en 4 matchs pour les Blackhawks. Et puis, une petite coquille, là,
oui.
un petit Adon, là, le troisième espoir, meilleur espoir des Blackhawks de Chicago. On parle de Frank Nazar, qui s'est mm-hmm. fait repêcher 13e au total en 2022, l'été passé. Si on se rappelle bien, il y a eu un petit lien avec le CH ici, là, en fait. C'est le joueur, c'est un joueur qui est repêché par Chicago, évidemment, mais a été repêché avec le premier choix que Montréal ont obtenu pour Romanov
ouais.
et que les Canadiens ont ensuite échangé à Chicago pour Kirby Dach.
Voilà.
Donc, c'est assez intéressant. Frank Nazar, qui est blessé cette année, par contre, là, avec Michigan dans la NCAA aux États-Unis, mais c'est tout de même là, un excellent espoir.
Ça va être intéressant de voir, est-ce que Romanov va avoir une meilleure carrière que Frank Nazar? On suit ça à tête de hockey. Quatrième meilleure équipe avec des recrues vraiment, vraiment intéressantes, on parle des Red Wings de Détroit.
Oui, absolument. Les Red Wings de Détroit, le meilleur espoir des Red Wings, qui est d'ailleurs coté 5e dans le top 50 de Scott Wheeler pour les espoirs.
Quand même.
On parle de Simon Edvinson, que moi j'avais personnellement comme le 4e meilleur défenseur
ouais.
Autour de la Ligue nationale, repêché 6e au total en 2021, qui joue présentement dans la Ligue américaine.
4e meilleur défenseur recru.
Oui, exactement.
C'est
oui,
pas
oui,
rien.
Pas dans la Ligue nationale, on parle d'espoir. Le deuxième, on parle de Marco Kasper, un Suédois qui joue présentement là, pour Rögle dans la Ligue professionnelle en Suède,
ouais.
repêché 8e au total en 2022. Puis le troisième, un gardien de but, Sebastian Kosa, qui a semé un petit peu la controverse, qui s'est fait repêcher avant Jesper Wallstedt, qui va revenir un petit peu plus tard. Là.
Je veux que tu m'en parles, lui, de Jesper Wallstedt,
oui,
mais
absolument.
On retenait entre autres Sebastian Kosa, un gardien de but avec Détroit.
Exactement. La troisième équipe, on rentre dans le top 3.
Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que cette année, ils sont encore dans le fond du classement. Ça veut dire qu'ils sont dans la course pour avoir Connor Bedard.
Oui.
On parle des Blue Jackets de Columbus. On a parlé beaucoup, beaucoup de David Jiříček
oui.
ici à l'émission Tête d'Hockey. C'est un défenseur qui s'est fait repêcher au dernier repêchage. Il était... sixième
oui,
au total.
Sixième, deuxième dans notre classement des meilleurs espoirs.
Voilà. Donc, Jiříček du côté de Columbus, c'est à regarder. Mais si on regarde finalement aussi du côté des attaquants, il y a un joueur que j'aime beaucoup, qui est numéro un à la LHJMQ cette
absolument.
Année. Il s'appelle Jordan Dumais. Retenez ça parce qu'il a présentement des points à peu près égaux à Connor Bedard, mais il évolue dans la Ligue finalement hockey junior du Québec. On dit peut-être que c'est pas le même.
Non, c'est la Ligue junior majeure. Objectivement, la Ligue junior majeure du Québec est plus faible que la Ligue de l'Ouest.
Ben, j'aime pas entendre ça, mais certains disent ça.
Ouais.
Donc, Jordan Dumais, qui a une saison, écoute, il a 105 points en 48 matchs.
Oui,
là, c'est
saison,
exceptionnel.
Une saison sensationnelle.
Donc, du côté de Columbus, Jiříček Dumais qui est à regarder. Et tu veux me parler de Denton Mateychuk.
Oui, dans le fond, Dumais est le troisième meilleur espoir des Blue Jackets, pardon. Denton Mateychuk, un défenseur qui a été repêché 12e en 2022, donc la même année qu'Jiříček. Donc, Jiříček 6e, Mateychuk 12e, un bon repêchage en défenseur là,
ouais.
pour les Blue Jackets. Mateychuk qui joue pour les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de l'Ouest.
Ils vont être bien à la défensive.
Oui, ils vont être bien à la défensive, mais
Bon, moins là, je moins... veux qu'on parle des deux les deux meilleures équipes avec oui. Les recrues. Et je vois le temps qui avance, donc je veux qu'on y aille assez rondement. Oui. Malheureusement, là, on aurait voulu en parler. Parce que tes Devils ne se retrouvent pas au premier rang.
Non.
C'est le Wild du Minnesota. Mm-hmm. Donc, évidemment, les Devils du New Jersey arrivent au deuxième rang. Qui sont les trois attaquants qui sont restés sous le radar de Wheeler?
Oui, les trois joueurs, dans le fond, les trois espoirs là, oui. qui complètent le classement.
Parce qu'il y a quand
Devils.
Même deux défenseurs. Exactement. J'ai dit attaquants, mais il y a deux défenseurs.
On parle de Luke Hughes au premier rang, qui était numéro un dans notre classement à nous. On a Simon Nemets, le numéro deux dans le classement de Wheeler, qui est au quatrième rang pour nous. Et Alexander Holtz, qui se retrouve là au troisième rang. Un joueur qui a joué avec les Devils cette saison, mais qui se retrouve présentement dans la Ligue américaine.
Holtz, qui pourrait peut-être jouer avec... voilà. Ouais. Dans l'échange de Timo Meyers. Et ben là, on entend évidemment la musique de conclusion, mais la première équipe avec la meilleure cohorte de recrues serait le Wild du Minnesota. Explique-moi un peu ça.
Le Wild du Minnesota, Wheeler aime beaucoup Jesper Wallstedt, le gardien de but suédois voilà. qui joue pour le Wild d'Iowa, qui s'est fait repêcher 20e au total en 2021 par le Wild, mais le Wild du Minnesota a aussi des bons joueurs. Là. Marco Rossi, Liam O'Gren, qui
s'en
trouve au deuxième et troisième rang.
Boldy qui a signé cette année, Caprizov.
Exactement.
Donc, il y en a plusieurs.
Le consensus serait que les Devils auraient le meilleur groupe de joueurs qui sont pas des gardiens, mais Wheeler aime beaucoup Wallstedt, donc Wallstedt fait pencher la balance. Mais future is bright au New Jersey, puis à Minnesota aussi.
Ben, on continuera de vous en parler, bien évidemment, à Tête de Hockey. Nous, on aime ça, voir le futur de ce qui s'en vient. On va vous parler des prochains choix au repêchage. On va vous parler de la date limite des transactions. La semaine prochaine, en ce vendredi, ce dimanche 26, on va prendre un petit congé, on va se retrouver le dimanche 5 mars pour parler en rétroaction de ce qui s'en vient le 3 mars, la date limite des transactions.
Puis le 12 mars, on vous réserve une petite surprise, une entrevue en studio le 12 mars avec un ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec, on vous tient au courant là-dessus.
Beaucoup de choses qui s'en viennent, donc pause la semaine prochaine, après ça, deux grosses émissions qui s'enchaînent. Ben moi, je souhaite remercier mon cher collègue Cyril Fournier qui était au micro de Tête de Hockey ce soir. Merci Cyril.
Le plaisir est pour moi. Merci à tous les auditeurs d'avoir été là.
Et merci à Michel, notre cher auditeur qui nous a appelé.
Merci.
C'est très apprécié. On va ouvrir les lignes pendant d'autres émissions. On est les dimanches de 19h à 20h. C'était Tête d'Hockey. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine de hockey. On se revoit dans deux semaines, le dimanche 5 mars. Ciao!
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
À conduite antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.